Bonsoir, comment allez-vous? Que se passe-t-il avec nos adolescents et le lave-vaisselle? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi un adolescent, normalement constitué, ne peut pas arriver à ranger correctement un bol dans le lave-vaisselle? À 18 mois, dans son jeu, il arrivait avec aisance à faire rentrer les ronds dans les ronds, les triangles dans les triangles et les carrés dans les carrés. Il le faisait tellement bien qu'on était un peu désespéré d'avoir mis une blinde dans cette boîte d'éveil de bonne qualité pour qu'il la maîtrise au point qu'il n'y ait même plus de jeu. Ça devenait une mécanique. Alors pourquoi le lave-vaisselle ne devient pas une mécanique? Pourquoi à 16 ans dispose-t-il les bols dans les verres, les saladiers dans les assiettes? Un adolescent de mon entourage a appris à monter un mur en pierre sèche. Et il s'en est très bien sorti. C'est un joli travail. Il faut, vous vous en doutez, choisir et placer les pierres avec soin, astuce et patience. Pourquoi n'arrive-t-il pas à appliquer cette science au lave-vaisselle? Que se passe-t-il donc? Cet appareil ménager aurait-il été envoûté? Une vengeance du diable qui menait son monde au Moyen-Âge et qui maintenant ne mène plus qu'une demi-poignée de complotistes. Mais qu'il est malin ce diable! Comment toucher le plus grand nombre? Par les familles! Et aucune famille ne peut résister à un ado face au lave-vaisselle. Quand on voit comment il s'y prend, on se dit cet enfant est mauvais, méchant, paresseux, égoïste et saut par-dessus le marché. Je vais te lui envoyer un bon engueulot pour te lui remettre les idées en place. Sitôt dit, sitôt fait. Sitôt fait, sitôt regretté. Et voilà le travail. Le diable a gagné, grâce à son arme secrète, la culpabilité. La culpabilité comme la gangrène ronge le parent. Elle lui colle au cœur comme le jaune d'œuf à l'assiette. S'il y avait un vaccin anti-culpabilité, moi, je m'inscris tout de suite à la picouse.
Bonjour, je m'appelle Aïna, j'ai 10 ans et je voudrais savoir si la crise d'adolescent existe depuis toujours ou si ça ne fait qu'un temps que ça existe. Merci de me répondre. Au revoir.
Moi, je sais que ça existait déjà quand j'étais adolescente. Mais ce n'est pas mon métier, c'est le vôtre, Jeanne Siofachin, de nous aider à vivre. C'est le titre de votre livre, s'il te plaît, aide-moi à vivre, pour une nouvelle psychologie, édité chez Odile Jacob. Crise d'adolescence, mode.
En fait, la crise d'adolescence, ça n'existait pas avant. En tout cas, on ne le disait pas comme ça. On ne parlait pas d'adolescent. On passait de l'enfance à l'âge adulte. Au mieux, on était jeunes dans les années 70, 80 même. Et adolescence, ça vient de teenager, le mot anglais, et on a fabriqué finalement ce mot qui n'existait pas. Mais c'est le mot qui n'existait pas, bien évidemment, parce que adolescence, en latin, ça veut dire ad, laissere, aller vers l'âge adulte. Donc c'est un mouvement. L'adolescence est une dynamique, c'est un passage. On n'est pas un adolescent. On traverse un moment qui est effectivement un moment de quoi? Un moment de transformation hormonale. Et ça, ça existe depuis toujours, bien sûr. Chez les filles, comme chez les garçons, le corps se transforme, et il y a tout un aménagement à l'intérieur du corps qui fait que on va pas ressentir les choses de la même façon, on va se mettre à penser différemment parce que le cerveau commence à arriver presque à maturité, puisqu'on sait qu'il n'arrive à maturité qu'à 25 ans, donc ça dure longtemps, ce moment de transformation, et on va pouvoir penser d'une certaine façon ce qu'on pouvait pas faire avant, on va pouvoir se poser certaines questions assez abstraites, conceptuelles, sur le sens de la vie, sur des tas de choses comme ça, et on sait qu'à ces moments-là, on se pose beaucoup toutes ces questions, et puis évidemment, toutes les hormones que rapidement on peut dire les hormones de l'amour se mettent en place, donc on commence à ressentir des frémissements, d'être attiré par un garçon, par une fille, dans son corps on ressent toutes ces formes d'excitation au sens noble et physique du terme, dans les deux sens, par rapport aux autres, et donc se met en place tous ces processus amoureux, et donc ça modifie beaucoup notre façon d'être. C'est pour ça qu'on parle d'une crise à une crise. C'est quelque chose qui passe, c'est un passage, l'adolescence. Et c'est très important de comprendre que c'est une dynamique et que on n'est pas obligé de faire une crise d'adolescence, mais on est obligé de passer ce moment où notre corps, notre cœur et notre cerveau se transforment. Et ça va effectivement nous modifier et nous transformer et physiquement et dans notre façon d'être et de penser. Jeanne Ciot-Fachin a écrit de nombreux livres, le dernier a un joli titre, qui va bien d'ailleurs avec cette question, « Grandir, vivre, devenir », et c'est édité chez Odile Jacob. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Alors ce soir, vous avez demandé ce qu'il se passerait si on ne labourait pas la terre et à quoi ça sert de la labourer. Vous avez aussi demandé si les oiseaux ont un nez et des oreilles et pourquoi les moines ont-ils le crâne tonsuré? Ces questions ont été... Oui, c'est le mot employé, moi aussi ça m'a étonnée, par l'enfant. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour Noël, bonjour tout le monde. Alors c'est Boris, j'ai 38 ans et j'ai une question que je me pose depuis ma tendre enfance. C'est comment fonctionnent les châteaux d'eau? Voilà, je vous embrasse, ciao.
Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 4 ans. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a dans les châteaux d'eau. Merci, au revoir.
Même s'il y a beaucoup d'attentes pour les questions des petits bateaux, Élie, tu as de la chance parce que tu ne seras pas obligée, comme Boris, d'attendre 38 ans pour savoir comment fonctionnent les châteaux d'eau. Michel Virlogeux, on vous connaît bien pour vos ponts. Le pont de l'île de Ré, le viaduc de Millau, le pont de Normandie et le troisième pont du Bosphore. Donc, vous êtes un ingénieur qui s'occupe des ponts. Mais les châteaux d'eau, c'est moins spectaculaire que les ponts, mais on se demande quand même comment ça marche. On a de l'eau tous les jours dans nos cuisines.
Eh bien, vous avez de l'eau parce qu'il y a des châteaux d'eau qui sont des réservoirs d'eau plus hauts que votre cuisine. Parce que l'eau, eh bien, c'est vrai que quand vous ouvrez le robinet, puisque le réservoir d'eau est très haut, eh bien, par la gravité, l'eau va tout simplement arriver. Alors, certainement dans les immeubles de grande hauteur, il faut autre chose, mais disons que l'eau dans les maisons courantes, dans les petits bâtiments, c'est le principe. Il faut qu'on mette la réserve d'eau très haut. Alors, comment fait-on ? On fait une grande tour, je vais expliquer comment on l'a fait tout à l'heure, avec en haut un gros réservoir, et puis avec des pompes, on envoie l'eau en haut. Et puis quand elle est en haut, eh bien, quand vous ouvrez le robinet, elle va pouvoir redescendre et venir chez vous.
Il n'y a plus qu'à ouvrir.
Il n'y a plus qu'à ouvrir. C'est bête comme tout.
Alors, plutôt que de faire des milliards de petites pompes, une petite pompe par maison, on en fait une grosse.
On en fait une grosse.
Pour tout le monde.
Ce qui permet surtout de traiter l'eau, de façon à ce qu'on ait de l'eau potable.
Hein. Ah oui.
Bon. Le principe du château d'eau, c'est celui-là. On monte l'eau au-dessus des utilisateurs. Alors, pour construire les châteaux d'eau, c'est pas très compliqué. Le château d'eau classique, hein, il est constitué de deux choses. Il y a un fût, une colonne, qui est là pour simplement permettre de mettre la charge en haut. Et puis, en haut, vous avez un gros réservoir. Alors, c'est assez rigolo, hein, on a maintenant des techniques assez originales pour construire les châteaux d'eau et que ça coûte pas trop cher, hein. Alors, le principe, c'est tout simplement, vous fabriquez votre colonne. La colonne, il faut qu'elle soit capable de porter la charge. Et à terre, on va fabriquer le château d'eau. Mais on le fait à terre. Et puis après, on va le lever avec des câbles pour pas avoir à faire un échafaudage à grande hauteur. Et donc, on va lever le château d'eau.
Mais qui va le lever ? Il y a des méga-moteurs, là.
Ah non, c'est des vérins. On met des câbles et des vérins. Les vérins, c'est des espèces de pièces hydrauliques, là, où on envoie de la pression avec une pompe. Et la pompe, elle fait... dégager un piston, on bloque, à ce moment-là, on redescend le piston, et on remonte, et on remonte, et on remonte, par pas de 30 cm.
En fait, il est poussé par en dessous.
Il est levé par au-dessus. On met les vérins en haut, ancre les câbles sous la structure à lever, et là, avec les vérins en haut, les vérins vont avaler les câbles progressivement, c'est ce qu'on appelle des vérins à valeur de câble, ou des vérins à deux plateaux, c'est et malin. On va progressivement lever le plateau, et puis une fois que le plateau sera en haut, on va le lier à la colonne. Et puis là, on aura une espèce de plateforme qui va permettre de construire la fin du château d'eau.
Il n'y a plus qu'à remplir.
Et il n'y a plus qu'à remplir. Alors évidemment, il faut que le château d'eau soit étanche. Donc, évidemment, il faut à ce moment-là des bétons de qualité, peut-être de la précontrainte, hein, pour bien serrer. Parce que vous savez que le béton résiste mal à la traction. Donc, pour qu'on soit sûr d'être bien étanche, on va comprimer le béton avec de la précontrainte.
Donc le béton est étanche.
Le béton est étanche, s'il est comprimé.
Mais il n'aime pas trop qu'on le pousse, qu'on le tire, qu'on le torde.
On n'aime pas trop qu'il soit en traction. C'est quand vous avez une poutre sur deux appuis, mettez une charge dessus, elle fléchit comme ça.
Un petit peu, oui.
Et donc, dans le haut de la poutre, vous êtes en compression. Dans le bas de la poutre, vous êtes en traction. Si vous faites une poutre en béton armé, dans le bas de la poutre, il faut mettre des armatures en acier parce que le béton résiste mal à la traction. et que c'est l'acier qui va prendre la charge.
Alors qui, Michel Virlogeux, résiste bien à la traction ? L'acier, si j'ai bien compris ? L'acier, c'est ça ?
Alors, on utilise aussi des câbles en matière plastique, du Kevlar, des choses comme ça, mais ça coûte très très cher. Donc.
C'est l'acier ?
C'est l'acier.
Michel Virlogeux, donc ingénieur, consultant, concepteur de ces plus grands et plus beaux et plus spectaculaires ponts du monde, a pris le temps de nous expliquer comment fonctionnait un château d'eau. Merci à lui, c'est ça les petits bateaux.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. La guerre, tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes. Mais de temps, je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Je reviens te chercher, Gilbert Bécaud. Alors, petite question, quelle année, qu'est-ce que vous dites ? Allez, je vous aide, c'est une année qui est réputée pour son mois de mai 1968.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je repensais à la réponse de Michel Virlogeux sur les châteaux d'eau. Elle était intéressante, mais pas si simple. Alors, je vous signale que vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi les moines avaient les crânes tonsurés. Merci, au revoir.
Bonjour Julien. Alors, il y a deux choses. Ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la tonsure, c'était sur le crâne, sur les cheveux, un petit endroit qui était rasé, un petit rond, hein, sans cheveux. Et puis, il y a aussi le crâne rasé, parce que bien souvent, les moines se rasaient carrément alors tous les cheveux. Chez les chrétiens, mais aussi les moines bouddhistes, ont le crâne rasé.
Ah oui.
Alors pourquoi ?
Pour les poux.
Très bonne réponse. Pour les poux, bien sûr. C'est effectivement en partie pour ça, parce que dans une collectivité, il y avait des monastères avec plusieurs centaines de moines. Moins il y avait de cheveux, moins il y avait de poux. Puis une autre raison, c'est pour l'humilité. Pourquoi ? Ça, c'est difficile, Julien, pour toi de le savoir. C'est qu'aujourd'hui, la mode, elle est aux cheveux courts. Regarde les garçons, surtout les grands garçons maintenant, ils ont les cheveux très courts. On appelle ça un peu la coupe para, parce qu'autrefois, il y avait que les militaires à être rasés comme ça. Et les moines se coupaient les cheveux pour montrer qu'ils n'étaient pas comme les autres. Par exemple, je ne sais pas, moi, en France, au XVIIe siècle, à la cour du roi Louis XIV, tout le monde avait des grandes perruques. Mais les moines, eux, ils avaient le crâne rasé. C'était une marque de, d'humilité et de pauvreté. Alors évidemment, quand on a des cheveux comme ça qui ont disparu, on ne met plus de produits de beauté, on ne met plus de gel, de laque, de colorant,
etc. Donc de simplification totale aussi.
Ouais, c'est aussi une mesure d'économie.
Ah oui, pour un moine. Mais alors, Odon Vallée, pourquoi, pour répondre à Julien, pourquoi est-ce que finalement, j'ai compris, il y a ceux qui se rasaient totalement le crâne, et pourquoi certains, d'abord, je ne sais pas s'ils le font encore maintenant, se raser juste comme ça, là, derrière le haut du crâne. C'est par là que les hommes commencent à perdre leurs cheveux, d'ailleurs. Juste là, la pointe de la tête. Pourquoi juste
c'est
là?
C'est très curieux, parce qu'à cet endroit-là, les bébés ont ce qu'on appelle la fontanelle, c'est-à-dire un petit trou dans l'os du crâne qui va se boucher durant la première année de vie. Et peut-être bien que ça rappelait aussi l'origine de la vie, l'origine de leur enfance, de leur toute petite enfance, bébé. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était très visible, qui se remarquait, qui leur laissait quand même des cheveux.
Odon Vallée, docteur en sciences des religions, a écrit évidemment beaucoup de livres. Je vous signale celui-ci, « Les religions dans le monde », édité chez Flammarion, que vous pouvez maintenant trouver en format poche.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 5 ans, et je voudrais savoir si les oiseaux ont des oreilles et un nez. Merci.
Bastien, ta question est intéressante, elle est complexe. Je vais essayer de t'expliquer ça le plus simplement possible. Tu as remarqué que les oiseaux n'ont pas d'oreilles visibles. Toi, tu en as. Si tu as des lunettes, par exemple, tu peux mettre les branches de tes lunettes sur tes oreilles. Bien, les oiseaux n'en ont pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'oreilles. En fait, le trou de leurs oreilles est caché sous les plumes, mais ils entendent aussi bien que toi, et quelquefois peut-être mieux. Donc oui, les oiseaux ont quand même des oreilles. Et pour le nez, ils n'ont pas véritablement de nez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, le bec n'est pas un nez.
Ah bon?
Mais non.
Même quand il y a un trou?
Alors, ce sont des narines qui communiquent avec des fosses qui sont à l'intérieur du palais des oiseaux, et ça ne fonctionne pas exactement comme notre nez.
Ah.
Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les oiseaux n'ont pas d'odorat fonctionnel, à quelques exceptions près.
Ah, mais alors comment ils font pour savoir si une femelle est en chaleur, en admettant qu'il y ait des femelles en chaleur chez les oiseaux? Quelles sont les périodes de reproduction? Où est-ce qu'il y a de la nourriture? Si alors, la mère est loin si...
C'est essentiellement par des stimulations visuelles, c'est-à-dire que les oiseaux fonctionnent surtout en voyant ce qui se passe autour d'eux. Et par exemple, une femelle va pouvoir voir un mâle dans toute sa splendeur, la splendeur de son plumage nuptial, et c'est ça qui va lui donner une très bonne information sur la qualité physique de ce mâle. Si les couleurs de son plumage sont chatoyantes, si le plumage lui-même est en bonne forme, si vous voulez, ben ça veut dire que l'oiseau qui le porte est également en bonne forme. Et ce sont donc des informations qui sont véhiculées par la vue.
Donc en fait, l'organe qui renseigne le plus l'oiseau, Guilhem Le Saffre, ce sont ses yeux.
Oui, c'est vraiment un sens. La vue est pour les oiseaux quelque chose de tout à fait fondamental.
D'accord, c'est pour ça qu'ils ont des plumes colorées. Remarquez le corbeau. Ah, mais c'est quand même un beau noir le corbeau. Si je comprends bien, il faut que nous fassions attention à disposer nos boules à oiseaux dans des endroits bien visibles. Guilhem Le Saffre est actuellement administrateur de la Ligue française pour la protection des oiseaux et il vient d'écrire un ouvrage collectif d'ailleurs qui s'appelle Merveilleux oiseaux, édité chez Rustica. C'est un guide avec des photographies d'oiseaux en taille réelle et ça c'est formidable pour arriver à les reconnaître.
Lo que pasó, ¿quién me lo inventó? Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que él le hacía mal. Y él me lo notaba. Tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve.
Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
C'est joli, hein? Extrait de la playlist de France Inter, Rosalia. Vous connaissez le principe, des petits bateaux, des enfants posent des questions, des savants leur répondent. Et ces questions sont posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Elliot et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir à quoi sert exactement de labourer la terre et qu'est-ce qui se passera si on ne le faisait pas. Au revoir.
Bonsoir Elliot, je pense que tu as écrit ta question et c'est une bonne idée, comme ça on la comprend bien. À quoi ça sert de labourer la terre et qu'est-ce qui se passerait si on ne le faisait pas, demande Elliot. Lydia Bourguignon, vous avez écrit avec Claude Bourguignon, Le sol, la terre et les champs aux éditions Sang de la Terre.
Bonsoir Elliot. Alors il faut déjà que tu saches que il y a très longtemps, il y a 6000 ans, en fait on ne labourait pas la terre. Les hommes se déplaçaient, hein, on les appelait des itinérants. Et les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils ils ramenaient la viande, ils chassaient, ils cueillaient. Et puis, il y a 6000 ans, entre 6000 et 10 000 ans, les hommes ont arrêté de se déplacer. Ils ont fait des villages, des villes. Et à ce moment-là, il a fallu toujours travailler la terre au même endroit. Et à ce moment-là, les hommes se sont trouvés confrontés à quand on gratte trop la terre, qu'on la laisse nue, parce que la terre, pour se protéger, elle se défend en mettant, nous on appelle ça les hommes appellent ça des mauvaises herbes, mais on devrait appeler ça des adventices, elle se protège, elle est comme toi, quand tu as froid, tu mets un manteau, ou quand il fait soleil, tu te mets à l'abri. Ben, la terre, elle a besoin de se protéger. Mais pour faire les graines, le blé, les céréales, bien entendu, il fallait enlever ces adventices, ces herbes, pour que les semences que voulait mettre l'agriculteur prennent le pas. Donc, on a commencé, c'est le premier mot, on a commencé à retourner la terre, à la labourer. Et puis, ce labour, mais il était fait par des hommes, il n'était pas fait par des machines, donc c'était très, très superficiel et on n'abîmait pas le sol.
Donc, on a labouré pour se débarrasser des plantes dont on ne voulait pas, pour avoir de la place, pour mettre les plantes dont on voulait.
Exactement. Il fallait faire de la place, sinon... Les adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, prenaient trop de place. Et puis, en labourant, en grattant un peu la terre, on faisait ce qu'on appelait le lit de semence. C'est-à-dire, on rendait la terre comme du couscous, comme de la semoule. Pour que la graine, la semence, ait ce qu'on appelle un lit, qu'elle soit bien pour pousser. Mais avec le temps, on a montré que les hommes ont voulu aller de plus en plus profond, ont fait des labours de plus en plus profonds, on a de plus en plus détruit les sols. Et à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le monde, dans le milieu agricole, c'est d'arrêter de labourer. Alors, comment on fait? Parce que il y a toujours ce problème de mauvaises herbes. Eh bien, si tu prends l'exemple, après que l'agriculteur ait coupé les pailles, ait coupé son blé, ait fait sa moisson, on va semer avec un outil par contre très très particulier que l'agriculteur est obligé d'acheter. Il est fait spécialement pour ça. On appelle ça un semoir à disque. C'est un semoir qui coupe la terre comme un cutter. Et donc à l'intérieur de ces pailles, on va semer des plantes qu'on appelle des plantes de couverture. C'est-à-dire que ça va couvrir le sol pour empêcher que les mauvaises herbes, elles, celles qu'on veut pas, vont pousser.
On revient à notre manteau.
Voilà, on fait le manteau, mais c'est un manteau qu'on connaît. qu'on connaît très bien. C'est nous qui décidons. En plus, ce manteau de plante va avoir un avantage, c'est que elle va pousser, elle va permettre de laisser à l'ombre le sol, donc les vers de terre, cette petite faune, les colamboles, les acariens, ils sont à l'ombre, ils vont pouvoir vivre. Ce couvert va maintenir aussi une forme d'humidité et en plus, les racines vont permettre avec le temps de maintenir le sol vivant. Quand l'agriculteur va vouloir remettre la plante qui va lui faire son bénéfice, c'est-à-dire une plante d'hiver, une graine d'hiver, à ce moment-là, devant, il va avoir un rouleau, un gros rouleau avec des barres. Il va écraser le couvert devant. Derrière, l'agriculteur aura ce fameux semoir aussi. Et directement, sans toucher à la terre, il va mettre la graine qui lui fera son profit. Donc c'est une technique qui est difficile quand on la décrit, mais qui est extrêmement performante pour les agriculteurs. Parce que petit à petit, ils vont utiliser moins de produits, parce que ces plantes de couverture, elles ont un avantage, c'est qu'elles rendent le sol vivant. Et plus le sol est vivant, moins l'agriculteur va avoir besoin de fertilisants, de remettre à manger à la plante. Et puis, il faut savoir que ces techniques-là, on parle du problème du CO2 dans la planète, hein, l'augmentation du CO2 de la planète. Quand on fait un labour, ça consomme de l'énergie et on dit qu'on dégage une tonne de gaz carbonique, alors que le semi-direct sous couvert va en stocker 3 à 4 tonnes.
Lydia et Claude Bourguignon ont écrit chez Actes Sud « Manifeste pour une agriculture durable ». Pour ce dernier dimanche avant Noël, j'ai envie de vous parler d'une histoire d'amour. D'amour de la vie d'abord, d'amour de la nature et d'amour au sein d'un couple. L'écrivain Jack London est édité chez Gallimard dans la belle et prestigieuse collection de la Pléiade. Quelques-unes des nouvelles extraites du tome 1 de la Pléiade sont éditées en livre de poche folio, dont la superbe Une femme de cran, qui d'ailleurs a donné son titre à ce petit volume à 2 euros. Cette femme de cran est une indienne, achetée par un homme blanc, Charley. Charley avait besoin d'une machine multifonction qui se transportait toute seule. Quoi de mieux qu'une femme ? Le prix et le moteur, enfin le cœur, étaient bons. Affaire conclue, Charley repart avec Pasouk. Nous sommes sur le continent américain dans le Grand Nord. Au cours du récit, sur fond de famine, de froid, d'épuisement, nous découvrons Pasouk. Sa tristesse, sa colère, son courage, son intelligence, son honnêteté, son élégance. Et aussi cette brute de Charley, sa solitude, son courage, sa résistance, son intelligence, son honnêteté, son élégance. Pasouk et Charley vont s'aimer avec une force incroyable. Grâce à Pasouk, Charley a changé. Sur leur route, ils vont croiser le frère de Pasouk, à bout de souffle, à bout de force, au bout du rouleau, quoi. Mais ils n'ont pas de quoi nourrir 3 personnes. Alors, que vont-ils décider ? Une femme de cran de Jack London, chez Folio, 2 euros. Podcastez, mes amis, ces petits bateaux par franceinter.fr. Marie-Claire Matoute, Marjorie Devoucou, Gilles Gaillard, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous nous retrouverons dimanche prochain, 26 décembre, à 19h30.